France Inter.
Essayiste, productrice radio, journaliste et enseignante à Sciences Po, Laurel Mackie est l'auteur de plusieurs biographies consacrées notamment à Henry David Thoreau avec Marie Berthou Mieux, H.G. Wells, biographie Equarto ou Au sort Bronté. Elle a aussi publié le roman Combien de lunes et a notamment produit les séries Un été avec Proust et Un été avec Victor Hugo sur France Inter, racontées par Guillaume Gallienne avec lequel elle a longtemps collaboré pour l'émission Ça ne peut pas faire de mal. Ces deux séries ont d'ailleurs été adaptées en livre aux éditions Équateur. Amoureuse de l'imaginaire et de la fiction, Laurel Mackie a beaucoup œuvré à la transmission des grands textes du patrimoine littéraire. Sur la chaîne, elle a produit les émissions On n'a pas fini d'en lire, Les beaux esprits se rencontrent ou Mille et un mondes et signe cette année deux actualités. L'ouvrage Adèle Hugo, ses écrits, son histoire, paru chez Segers, est tout juste couronné du prix Victor Hugo. Et Petit éloge de l'imagination, paru aux éditions Les Pérégrines. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Laurel Mackie.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Je dirais, vendredi dernier, j'ai animé un atelier d'écriture pour des jeunes de 15 ans, bac technologique, pas beaucoup de lien avec la littérature ni l'écriture. Leur prof de français était clairement plus enthousiaste qu'eux à l'idée de me rencontrer. Et c'était étonnant parce qu'au départ, ils me disaient « Mais madame, le français, ça sert à rien. Puis de toute façon, écrire, maintenant, il y a ChatGPT. »
Oh non !
Donc, j'ai cru vraiment que j'allais passer l'heure la plus longue de ma vie. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont accepté les règles du jeu. Ils ont commencé à écrire. Je leur ai distribué du papier, des crayons à papier. Ils ont commencé à écrire et surtout à lire leur texte. Et moi, c'est ce qui m'intéresse souvent dans les ateliers d'écriture, c'est ce moment où en fait on fait aussi un pas vers soi et on accepte d'aller du côté de ce qu'on a peut-être à dire. Et c'était très beau de les rencontrer par l'écriture. Plus j'avance en âge, plus je crois que c'est comme ça qu'on rencontre vraiment les gens.
Par l'écriture ?
Ouais.
Avant la radio, vous étiez journaliste au magazine littéraire, vous avez fait un master 2 de littérature française à la Sorbonne. Ça a toujours été une passion, la littérature ?
Toujours, très jeune. Et d'ailleurs, je me souviens que je lisais un peu de tout. Je mélangeais Star Club et Alexandre Dumas. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai eu mon trajet vers la littérature, on va dire, plus sérieuse. Mais ça a toujours été un endroit où j'aimais me retrouver.
Vous avez consacré beaucoup d'essais à des écrivains, vous avez écrit un roman. Pourquoi un roman et tant d'essais consacrés aux autres ? Est-ce que vous avez été écrasée par l'admiration que vous leur portiez ?
C'est intéressant parce que l'admiration, ça peut écraser en fait. C'est toujours le problème, il faut en faire quelque chose. C'est vrai qu'au départ, ce qui m'intéressait, c'était essayer de comprendre comment les auteurs qui m'avaient toujours fascinée, qui m'avaient aidée à me façonner, à me construire, comment ils écrivaient, et puis d'où ils venaient, et puis comment ils avaient fait pour écrire les œuvres qu'ils avaient écrites, qui m'avaient tant transportée. Donc j'ai longtemps fait ça, et j'aime toujours le faire en fait, essayer d'explorer les auteurs qui m'aident à m'explorer. Et je suis allée du côté du roman, on va dire de la fiction, effectivement, il y a peu de temps, il y a 2 ans, parce que ça me semblait tout d'un coup nécessaire et que la dernière biographie que j'avais écrite, qui est Les Sœurs Brontë, j'avais touché peut-être les limites du genre. Notamment à travers l'étude de la dernière sœur, Anne Brontë, qu'on ne connaît pas en fait. On connaît Charlotte et Émilie, et puis Anne, on sait que c'est la troisième sœur, mais on oublie toujours son prénom. Alors qu'elle est ultra importante, elle est très féministe, hyper avant-gardiste. Des trois sœurs, c'est celle qui a inventé le plus de choses. Et il y a très peu de choses sur elle, il y a très peu d'éléments. Et quand on écrit une biographie, quand on n'a pas de source, c'est très problématique. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être le moment d'inventer quelque chose. En tout cas, ça ne me suffit plus.
Quel est l'écrivain qui, selon vous, a le plus d'imagination ?
Ouais, c'est difficile comme
question. C'est vrai, je suis d'accord.
Ouais, là, c'est pas sympa.
Non, c'est pas sympa.
En tout cas, alors, pour citer un auteur que je connais bien, parce que je l'ai étudié pendant vraiment des années, H.G. Wells.
Vous lui avez consacré une biographie aussi.
Voilà, lui qui a vraiment... il a opéré un tournant en littérature fin 19e, début 20e siècle, avec des romans extraordinaires, L'île du docteur Moreau.
J'étais traumatisée par ce livre.
Moi aussi, c'est ma première...
La torture des animaux.
Tout à fait. Je pense que c'est ma première frayeur littéraire d'adolescente. Et en même temps, je me suis dit, c'est fou qu'un livre arrive à faire ça.
Et l'homme invisible, en fait, est très méchant.
L'homme invisible est très méchant.
Pas du tout comme dans la série avec le chapeau.
Super bien, oui. Et je crois que Wells, c'est quelqu'un pour moi qui a énormément d'imagination, mais il s'est un peu perdu dedans. À la fois, il a été super visionnaire, comme on dit. Et en même temps, à un moment donné, on l'écoutait plus trop, je pense. Justement parce qu'il arrivait un peu trop fort.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Imagine de John Lennon, qui apparaît en exergue de votre petit éloge de l'imagination, Laura Almaki, paru aux éditions Pérégrine, et dans lequel vous écrivez « J'ai cessé d'imaginer un jour, je ne sais plus quand ni pourquoi, je sais pourtant ce que je dois à l'imagination, de n'avoir pas péri mille fois au moins. » Comment ça vous avez cessé d'imaginer un jour ?
Eh bien, je n'arrive pas à l'expliquer, mais il est arrivé un moment dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, où je me suis dit que j'étais davantage prise chaque jour par la sidération. Je me sentais très piégée par le réel, par ses impossibilités, par des images dont je ne savais pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce qui avait longtemps existé pour moi, c'est-à-dire, alors proprement fabriquer des images, mais me faire des films quand je le voulais un petit peu, ne pas attendre forcément la nuit pour rêver, ça avait complètement disparu. Et ouais, je me suis demandé ce qui s'était passé. Est-ce que j'avais changé ? Est-ce que le monde avait changé ? Qu'est-ce qui avait changé dans mon quotidien pour tout d'un coup quelque chose de si important pour moi disparaisse ?
Mais vous dites aussi que vous avez tout fait pour que le réel soit étouffé par la vie imaginaire.
C'est vrai, mais c'est mon paradoxe. Je l'assume, qu'importe les paradoxes, ils sont là. Et en fait, ils disent souvent pas mal de choses. Je crois que comme plusieurs personnes sûrement, j'ai été... prise par le réel, j'ai voulu trouver ma place, j'ai voulu arrêter de me faire des illusions, j'ai voulu croire que le réel avait quelque chose peut-être à m'apporter de plus que ma vie intérieure. Et on est tous pris à un moment donné par ça dans notre vie adulte. Il faut s'accomplir, c'est appelez ça comme vous voulez, la performance, l'exigence de réussite. On a beau se dire que c'est que des mots, en fait, il est très difficile de renoncer à ça. Et de se dire, ah ben non, je vais vivre qu'à travers mon imagination. Je me suis oubliée en fait. Et je me suis rendu compte qu'une habitude que j'avais avait disparu. Il fallait que je la retrouve. Donc c'était à la fois le constat d'un échec, d'une petite défaite. Et en même temps, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher de ce côté-là.
C'est beau de dire que vous vous êtes oublié en arrêtant d'imaginer. Parce que c'est vrai qu'on a de moins en moins ce rapport à soi, ce jardin secret, justement ces choses où tout est possible. On est tout le temps dans le sérieux qu'on singe d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on imagine le fait d'être adulte.
C'est comme ça qu'on imagine, le fait d'être adulte, d'être responsable, d'être dans la vraie vie en fait. C'est intéressant ce mot. Souvent on dit ça aux gens qui ont un peu la tête en l'air ou la tête dans les nuages. Enfin, je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, mais reviens vers moi. T'es pas dans la vraie vie. Est-ce que t'as les pieds sur terre ? Moi, j'aime bien les moments où j'ai pas trop les pieds sur terre. J'ai l'impression de toucher à quelque chose qui est juste.
Vous écrivez « Au départ, les adultes s'extasient devant l'imagination des enfants, puis ce talent devient ridicule, on est exceptionnel, on devient idiot. »
Mais c'est vrai, non, il n'y a que moi qui pense ça.
Ah non, bien sûr, non, c'est vrai. C'est tragique.
C'est tragique, et je ne sais pas trop à quel âge ça se produit. J'ai l'impression que c'est dans l'enfance, à un moment donné, où on rentre à l'école primaire, où on commence à devoir savoir écrire et lire. Alors, il y a toujours ça qui est en jeu, et c'est génial. Et en même temps, dès lors qu'on nous demande d'analyser des textes, de les commenter, d'apprendre des leçons par cœur, j'ai le souvenir au brevet ou au bac, on nous interdisait, on nous disait surtout ne prenez pas le travail d'imagination, prenez le commentaire ou la disserte. Comme si le travail d'imagination était une perte de temps et puis surtout ne pouvait pas montrer qu'on savait quelque chose.
Mais l'imagination, là on va en faire l'éloge toute la soirée, mais ça peut parfois être un ennemi.
Ça peut souvent être un ennemi. C'est d'ailleurs toute la difficulté de savoir qu'est-ce qu'il faut imaginer et comment bien imaginer. On sait tous le faire et l'imagination peut nous perdre. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples. Les fake news, c'est de la mauvaise imagination.
La plus grande peur qu'on a, c'est de la projection, c'est de l'imagination.
C'est vrai, et puis on se fait souvent aussi on a souvent une imagination qui peut jouer contre nous. Donc, Ursula Le Guin qui le dit très bien, cette autrice américaine de science-fiction qui est extraordinaire parce qu'elle a été invisibilisée des années et en fait c'est l'un des plus grands écrivains au monde. Elle dit qu'il faut nourrir son imagination, mais c'est comme un corps qui a besoin de 5 fruits et légumes par jour. Au fond, c'est un peu ça, il faut choisir ce qu'on veut mettre dans nos têtes et dans nos cœurs.
On va voir d'ailleurs comment la nourrir. Mais c'est vrai, revenons à l'enfance, parce que quand on est petit, tout semble possible. Et vous, Laurel Maki, vous aviez gagné un petit Larousse en CM2 grâce à vos notes. Ouais. Et vous pensiez, et ça c'est quand même irrésistible, vous pensiez apprendre tous les mots du dictionnaire pour parler comme personne ne parle. Et vous n'avez pas dépassé la lettre A. Et je pense que tous les auditeurs là qui nous écoutent, évidemment, tout petit, on s'est tous dit qu'on pouvait voler, qu'on pouvait apprendre des choses par cœur, avoir des super pouvoirs, faire de la télépathie. Et puis après, tout n'est que déception. Non, mais en gros, je résume. Hein.
Non, mais c'est vrai que j'avais cette idée un petit peu folle. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, qu'on emploie les mots que tout le monde emploie? Comment se démarquer, en fait? Je ne comprenais pas comment être singulière, en fait. Je me disais, comment être soi, être original quand même, et puis se ressembler? Et je m'étais dit, bon, bah, pour ça, il faut que j'apprenne des mots que personne ne connaisse.
Vous pouvez nous en dire un?
Non, je serais capable. En vieillissant, j'ai perdu toute ma mémoire.
Moi, quand j'avais découvert l'UNUL, j'étais émerveillée, mais en fait, beaucoup de gens le connaissent. L'UNUL,
oui.
On l'a sur les ongles, voilà. Bon, vite, Alice au Pays des Merveilles, venez me sauver.
Alice. Oh, continue, je t'écoute. Quelques temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume et lui offrit la couronne. Au début, Guillaume se montra fort. Alice, voudrais-tu avoir l'obligeance d'écouter ta leçon d'histoire?
Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images, c'est pas drôle.
Ma chère enfant. Il y a dans notre monde de nombreux livres de valeur qui ne sont pas illustrés.
Dans votre monde peut-être, mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images.
Dans son monde? Oh, voilà des divagations. Allons.
Des divagations.
Recommençons depuis le début.
Oui, c'est ça, Dina. C'est bien ça. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Comme disent les grands, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas. Je suis sûre que ce serait mieux. Hein, Dina? Qu'en dis-tu? Dans mon monde, tu ne dirais pas « miaou », tu dirais « oui, mademoiselle Alice ». Naturellement, tu parlerais comme les personnes, Dina, et les autres animaux aussi. Dans mon monde,
les petits chats, les gentils lapins, aux mines inquiètes, auraient comme nous de claires maisonnettes.
Extrait du dessin animé Disney Alice au Pays des Merveilles, adapté évidemment de l'imaginaire de Lewis Carroll. Laurel Maki, petite, vous exultiez dans la rêverie et vous faisiez gronder comme Alice, mais par votre grand-mère. Et le retour au réel était très douloureux.
Oui, c'est vrai que j'avais des moments d'absence. Je pense qu'il faut les appeler tels qu'ils ont été. C'est-à-dire que j'étais plus moi-même et je partais dans des divagations, des scénarios où je m'inventais autre. Et c'est vrai que je raconte dans le livre que j'avais cette habitude sur les longs étés que je passais en Normandie chez ma grand-mère, plus ou moins toute seule, parce que mes frères et soeurs n'étaient pas tout le temps avec moi. Dans les champs, alors c'est des champs, il n'y avait que des vaches et des moutons, il n'y avait rien. Et je passais mon temps à essayer d'imaginer que j'élevais un cheval, que je donnais cours à des enfants. Et je bougeais dans le vide, en fait, et je parlais à personne. Et un jour, ma grand-mère m'a surprise et j'ai été couverte de honte l'espace, je pense, de 2 ou 3 secondes. Et ça m'a sorti de l'imagination et je me suis rendu compte de ce que c'était, en fait.
Mais vous écrivez aussi, plus qu'être quelqu'un d'autre, je voulais m'oublier. Ça, c'est presque quelque chose de quelqu'un qui ne s'aime pas.
Pas du tout. Je crois que j'avais besoin, de m'oublier pour me connaître, en fait. Et j'ai toujours utilisé les livres. Alors, utiliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais au fond, si. J'ai toujours fait usage des livres comme des possibilités, en fait, que j'avais de pouvoir me rencontrer. Je sais pas que je les prends pour des oracles ou des boules de cristal, mais souvent dans ma vie et encore aujourd'hui, quand j'ai une question, une inquiétude ou une impossibilité, un problème à résoudre, je prends un livre et j'essaie de trouver une phrase qui pourra me donner la clé de ce que je traverse. C'est un peu comme jouer à pile ou face
ou se tirer les cartes.
Ou se tirer les cartes, voilà, c'est de la tarologie appliquée à la bibliothèque.
Alors, j'ai promis qu'on dirait comment exercer son imagination. D'abord, premier conseil, accepter de s'ennuyer. Ce que peu d'entre nous acceptent.
Ben oui, parce que c'est de plus en plus difficile et moi-même, je le constate. C'est-à-dire que les rares fois où j'ai rien à faire, je fais en sorte de faire quelque chose. Et ça, c'est un cercle vicieux, en fait. Et effectivement, j'ai du mal à me reconnecter, en fait, à mes propres images, aux potentialités qui m'habitent, en fait. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon téléphone, les réseaux sociaux, je scrolle 5 minutes, et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que j'ai plus de cerveau, parce que les images des autres m'ont envahi. Et c'est très difficile de revenir à un état un peu vierge, un état de possibilité, où on peut de nouveau se raconter des histoires.
Les sœurs Brontë, vous dites justement que l'imagination fut leur remède. Qu'est-ce que le jeu des Iliens ?
Ah, c'est rigolo, les sœurs Brontë et leur frère Branwell, il ne faut pas l'oublier. Au départ, il était là, hein, il a eu une fin tragique, mais...
Oui, je l'ai oublié.
tous les quatre, pour passer les longues soirées d'hiver, ils avaient inventé un jeu. Ils choisissaient chacun une île et puis ils essayaient de créer, d'imaginer des personnages qu'ils pouvaient avoir sur cette île. Au départ, c'était un jeu oral. Et puis, plus il a pris de l'ampleur, plus ils ont commencé à l'écrire pour avoir des traces, en fait, de ces éléments qu'ils créaient chaque nuit, chaque soir. Et c'est devenu, en fait, des histoires. Et c'est comme ça qu'ils ont appris non seulement à écrire, mais à avoir confiance en eux, en fait, sur leur capacité à générer de la fiction et à sortir d'un réel qui ne voulait pas forcément d'eux, hein, même pas du tout, parce que c'était un réel assez rude. Ils avaient perdu leur père était pasteur, il n'y avait pas beaucoup de perspectives, ils n'avaient pas d'argent, les gens dehors mouraient d'un simple rhume. Il fallait en avoir de la volonté et du désir pour oser imaginer et se dire « Tiens, je vais imaginer des choses qui n'existent pas, on verra bien ce que ça donnera. »
Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous le disiez, c'est vrai que Anne Brontë est la moins connue. Elle a fait Agnès Grey, Jeanne Herr, c'est Charlotte, Léo de Hurlevent, c'est Émilie. Elles ont pris des pseudonymes, mais à un moment, elles se sont fait passer pour les Frères Bell, ouais, pour une publication qui n'a pas rencontré de succès. Mais ce qui m'a frappée en vous lisant, Laurel Maki, c'est que Charlotte Brontë, à un moment, sollicite l'avis d'un grand écrivain de l'époque, Robert Southey, qui la décourage d'écrire.
Ah oui, c'est vrai que c'est une lettre extrêmement violente. Et d'ailleurs, elle raconte que cette lettre, elle ne l'a jamais... elle ne l'a pas froissée, elle ne l'a pas déchirée. Au contraire, elle l'a gardée précieusement. Et c'est un vieux monsieur qui serait l'équivalent, aujourd'hui, je pense, d'un académicien, vous voyez, qui lui dit « Mais vous êtes une femme, vous ne pouvez pas écrire. » Je n'ai rien contre les académiciens, hein, pardon, je fais une petite digression. Mais pour vous dire l'écart de génération et puis de titre, en fait, qu'il y avait entre une jeune fille de la campagne et puis quelqu'un qui était publié, qui habitait à Londres et qui voyait venir cette jeune femme qui voulait absolument écrire des histoires et puis compter, en fait, dans ce paysage littéraire. Et il lui dit de retourner à ses fourneaux. Et Charlotte Brontë écrit que jamais elle n'oubliera ce que cet homme lui a dit. Et voilà, elle a réussi à écrire l'un des plus beaux romans, je pense.
Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant. Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts.
Attendez-moi, attendez-moi.
Soudain... Devant nous, il y avait...
Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames ?
Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et tout à coup, j'étais en train de marcher sur Max Rainier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe.
Laurel Maki, dans votre ouvrage Éloge de l'imagination, petit éloge de l'imagination, vous invitez aussi à consacrer quelques minutes par jour à rêver les yeux ouverts comme l'ancien résistant et poète Robert Desnos, qu'on entend raconter un de ses rêves sur Radio Luxembourg en 1938. J'aimerais bien que vous nous parliez de lui parce que pour beaucoup d'anciens écoliers dont je fais partie, Robert Desnos, c'était vraiment le type qui faisait des poèmes nullissimes pour les enfants dans les livres de lecture. Et on ne se doutait pas en fait qu'il était absolument formidable et passionnant.
Il est formidable et passionnant, oui, sur les expérimentations qu'il a menées avec ce groupe de surréalistes, donc Éluard Breton, tous ces jeunes médecins qui, après avoir fait la Première Guerre mondiale, en fait, sont revenus en disant « mais c'est pas possible, on peut pas vivre dans ce monde-là, ce qu'on a vu, en fait, faut qu'on le dépasse ».
Mais qui lisaient Lautréamont pendant leurs heures de garde à l'hôpital.
Et qui lisaient aussi Lautréamont l'imaginaire aussi. Et il leur fallait échapper, en fait, à ce qu'ils avaient vu d'atroce. Et ils ont trouvé comme possibilité d'inventer ce qu'ils ont appelé la surréalité, le surréalisme. Et ils ont mené plusieurs expériences pour essayer de passer ce cap de la réalité. Comment on fait pour sortir de là où on est? Et donc, ils ont notamment créé ces sommeils un peu hypnotiques où, en fait, on n'était pas tout à fait inconscient, mais pas tout à fait non plus conscient. Et la personne qui rêvait, les yeux ouverts ou fermés, racontait ce qu'elle voyait. Et on notait, en fait, ses copains, ses camarades autour, notaient ce qu'elle racontait. Et Desnos a été le premier à tenter cette expérience. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à perdre complètement pied. Et ses textes, ses rêves éveillés sont absolument inouïs de fantaisie, mais aussi de vérité. Parce qu'il écrivait, mais il dessinait aussi. Il y a un dessin très très beau qu'il fait, on va dire dans les années 20, où il dessine un chemin de fer avec au fond un grand bâtiment, il y a une croix comme une tombe sur la gauche, et il va exactement, ça va être sa destination finale à lui, on sait qu'il va mourir en déportation.
Mais ce qui est fou, c'est qu'il meurt dans un camp nazi, et des témoins de son internement dans ce camp disent que par son imagination, parfois il arrivait à faire oublier leurs conditions aux autres déportés pendant quelques secondes.
Oui, c'est vrai qu'il y a des témoignages assez incroyables de survivants qui racontent qu'il osait aller voir les prisonniers un petit peu beaucoup désespérés et dès lors que les SS leur disaient de ne pas bouger ou de ne pas parler, Desnos allait les voir et essayait de lire la ligne de leurs mains. Il essayait de leur raconter des histoires drôles, de les faire rire. Il a jamais perdu cet automatisme de la fiction, même dans les pires moments.
Il s'est brouillé avec André Breton comme à peu près tout le monde.
Oui, c'est parce qu'il
il voulait qu'il aille au Parti communiste, il a refusé, donc il s'est fait exclure des surréalistes comme vraiment presque tous les gens qui y sont entrés. Et il a publié lui-même son manifeste du surréalisme.
Ouais, c'est vrai, il est super audacieux. Non, mais sur ça, alors on connaît pas trop ce livre, et puis je pense qu'on le lit pas, mais il en fallait, je pense, du courage et du cran, en fait, pour oser affronter Breton.
Mais vous évoquez à un moment de livre, parce que je pense à l'internement, je pense à la prison, vous évoquez Le Vagabond des étoiles de Jack London, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et je pense au poète turc Nazım Hikmet qui a écrit pléthore de poèmes en prison. On peut vraiment vivre une autre vie sans bouger, je veux dire, c'est le seul endroit que plus personne, sur lequel plus personne n'a de pouvoir, finalement, l'imaginaire.
Je pense que c'est le dernier endroit où on peut se retrancher, oui. Alors quand on est libre de faire ce qu'on veut, on s'en rend pas forcément compte. Quand on l'est plus, effectivement, c'est un refuge. C'est assez naïf peut-être de dire ça, mais c'est vrai.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Les nuits de tempête, quand le vent secouait les quatre coins de la maison, quand la houle s'élançait en grondant à l'assaut des falaises, l'idée d'un marin à une jambe me terrifiait et hantait mes rêves sous mille formes plus diaboliques les unes que les autres. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche. Ou bien c'était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe en plein milieu de son corps. Et dans mes pires cauchemars, il me poursuivait en sautant à cloche-pied par-dessus haies et fossés. Alors les alentours semblaient hantés par des bruits de pas. Les roches renvoyaient l'écho du vacarme. Et j'avais l'impression que j'allais bondir hors de ma peau, tellement j'avais peur.
Extrait de L'île au trésor de Stevenson par l'Orchestre National de Radio France dirigé par Didier Benetti et lu par Samuel Charles en 2023. Vous parlez de ce texte magistral sur lequel tant de jeunes adultes et d'adultes même ont rêvé, Laura Almaki, et on apprend sous votre plume que Romain Gary pensait que le trésor de L'île au trésor existait vraiment.
Oui, comme quoi ça fait naître des vocations, parce que Romain Gary est devenu Romain Gary après avoir lu Stevenson. Mais Stevenson, c'est vrai qu'il incarne toute une partie de nos enfances. J'ai envie de dire ça au pluriel, mais c'est presque c'est l'aventure à l'état d'excellence, en fait. Il y a quelque chose qui est très attaché aux premiers émois littéraires.
Vous notez que l'un des plus beaux livres sur l'imagination fut écrit par un romancier réaliste, qui le fut même tellement qu'on le poursuivit en justice pour cela. C'est Emma Bovary de Gustave Flaubert.
Oui. Moi, c'est un livre que j'ai longtemps cru, non pas mineur, mais je me suis toujours dit, Madame Bovary, elle est vraiment ridicule, quoi. Et je l'ai relu plusieurs fois, en me disant que je loupais peut-être quelque chose. Et effectivement, j'avais tout manqué, en fait. C'est comme si cette héroïne, que je pensais anti-héroïne, comme on dit, même si ça veut pas dire grand-chose, en fait, elle était grandiose, et puis elle faisait ce à quoi nous, on renonce un petit peu chaque jour, c'est qu'elle ne cesse d'imaginer, même dans les pires moments, alors même qu'elle n'a aucune échappatoire, qu'elle sait a priori qu'elle ne pourra pas quitter Charles, qu'elle ne pourra pas quitter ce trou perdu de Normandie. Mais elle essaye, elle se débat, et je la trouve héroïque, je la trouve très courageuse. Et c'est l'une des femmes qui m'a beaucoup appris, en fait, en littérature, je crois.
Alors ce qui est fou, et ça je l'ignorais, c'est que Flaubert avait tant d'empathie pour son personnage. Je dis son personnage comme ça, je ne dis pas de qui il s'agit pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce chef-d'œuvre absolu, qu'il est allé vomir deux fois après la scène du suicide à l'arsenic.
Mais oui, c'est ce qui est extraordinaire chez Flaubert, au-delà du fait qu'il écrit divinement bien et que je comprends toujours pas comment il écrit, en fait.
Non,
comment
ses phrases sont faites. C'est extraordinaire, c'est le plus...
C'est intéressant, il y a que Proust qui s'est un petit peu essayé de décrypter comment écrit Flaubert. Il a fait tout un truc sur l'adverbe chez Flaubert et c'est incompréhensible. On voit bien que lui non plus ne comprend rien. Et effectivement, Flaubert, il juge jamais son personnage. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir un auteur en totale empathie avec une femme désespérée. Ça, j'adore.
Alors, il y a un livre dont vous parlez comme d'un livre que plus personne ne lit, ou quelques-uns peut-être. C'est Ulysses, en anglais, de James Joyce. Un mot sur ce livre qui souvent est connu, mais auquel on n'ose pas s'attaquer.
Oui, il y a certains classiques qui connaissent ce sort. Joyce et Ulysse de Joyce, ce livre qui est une réécriture d'Ulysse d'Homère. Je pense effectivement à ce triste destin. Moi, pendant longtemps, j'ai lu que le dernier chapitre de ce livre. Vous voyez, j'ai sauté les 800 pages. Et je suis allée au 19e chapitre, qui est le monologue de Molly, qui est un texte absolument sublime. 8 phrases sur 40 pages, où une femme s'épanche sur ce qu'elle n'ose pas dire aux autres. Et longtemps, je me suis dit, bon, je lirai que ça de ce livre, et c'est pas grave. Et puis, j'ai dû le lire, notamment pour l'émission de Guillaume Gallienne, il y a plusieurs années maintenant. Et ça a été une aventure merveilleuse. Et je crois que j'ai appris un truc, là, sur la lecture des classiques. Je me suis dit, ok, c'est pas grave si tu comprends pas tout. Il y a quelque chose, quand même, que tu peux toucher, qui peut te parler. Je pense qu'il faut avoir ce réflexe-là avec les livres difficiles. Faut pas trop leur demander.
Un homme marche sur le sol de ce vieux miroir de vos rêves, et c'est votre cœur que l'on crève, la corde qu'on vous passe au col. Il va falloir aller plus loin, par-delà des millions d'étoiles, à la recherche de l'étoile qui vous fera rêver demain. Pleurez, Pierrot.
La Lune est morte, des frères Jacques, groupe de musical hautement fantaisiste, et qu'on trouve dans votre livre Petit éloge de l'imagination, Laura Almaki, ce qui vous permet de parler de ce qu'avait écrit Victor Hugo sur la Lune. Je pense au titre de votre premier roman quand même, Lune imaginaire. C'est un jour où le soleil cesse de se lever et l'univers semble avoir cessé de tourner. Et dans Petit éloge de l'imagination, tout un chapitre est consacré à Hugo, et vous rappelez notamment les séances de spiritisme, puisque il y avait des procès-verbaux qui retranscrivaient ces séances. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que... Enfin, moi, je savais qu'il voulait s'entretenir avec sa fille, qui est morte noyée, mais j'ignorais qu'il s'entretenait aussi avec Shakespeare, Molière ou Jésus.
Mais ça a duré 2 ans et demi, cette histoire. Enfin, ce délire, d'ailleurs, ce qu'il faut nommer. Et c'est intéressant parce que Victor Hugo, qui était au départ un peu sceptique, c'est peut-être celui qui s'est le plus pris au jeu de ces séances de table tournante, comme on les appelait à l'époque. Il avait fait jurer à sa famille de ne jamais publier ses procès-verbaux, qui sont nombreux, et qui le montrent dans lui qui avait ce statut d'écrivain national proscrit, seul opposant à Napoléon III à l'époque, parce que ces séances se passaient à Jersey, quand il était en exil. Il avait fait jurer à sa famille de ne jamais publier ses livres de son vivant. C'est dire s'il tenait évidemment à sa réputation. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna stick a stick. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. Lorraine Maki, je suis ravie parce que vous venez de me dire que vous avez failli choisir ça comme chanson. Vous en parlez dans votre livre. Vous aviez les Spice Girls et Leonardo DiCaprio en poster dans votre chambre adolescente.
Tout à fait.
Et donc j'en profite pour parler des écrivains dits visionnaires, puisqu'on apprend sous votre plume que Morgan Robertson, l'auteur de Futility en français, Le Naufrage du Titan, imagina en 1898, avec 14 ans d'avance, la catastrophe du Titanic. Alors il y a George Orwell, évidemment, 1984, Philip K. Dick, Don DeLillo qui raconte en 77 un attentat terroriste contre les tours jumelles du World Trade Center. Enfin, ça donne un peu le tournis, tout ça.
Ça donne le tournis, je ne sais pas trop quoi faire de cette information.
Moi non plus, et d'ailleurs, je viens de dire ça donne le tournis, ce que je n'ai jamais dit de ma vie, donc vraiment, vous avez le droit de ne pas traiter la question.
Non, mais c'est un chapitre où j'essaye d'explorer tous ces romans qui ont prévu ce qu'on va vivre, en fait. Et je ne sais pas comment me l'expliquer. Alors, il y a un psychanalyste et auteur extraordinaire, Pierre Bayard, qui fait une hypothèse et qui essaye de dire, peut-être qu'ils ont réussi à s'inspirer du réel à un moment donné, et peut-être que c'est inconscient. Et il y a plusieurs possibilités. Moi, j'avoue que ça me fascine, et c'est encore une preuve supplémentaire qu'il faut continuer à lire de la fiction. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, c'est important.
Alors, vous m'avez donné terriblement envie de lire quelqu'un que je n'ai jamais lu. Justement, c'est Ursula Le Guin, que vous avez citée tout à l'heure, qui était dans le même lycée que Philip K. Dick, qui est l'auteur du Sorcier de Terre et Mer. Vous dites que son chef-d'œuvre, c'est La main gauche de la nuit. Et l'histoire qui m'a frappée, que vous décrivez, c'est l'histoire de ceux qui partent d'Omélas.
Ah oui, c'est un livre extraordinaire que j'ai découvert il y a pas si longtemps, hein, je pense, il y a 2 ans. C'est un village et des gens qui vivent dans ce village et qui sont insouciants, qui ne se doutent de rien. Et en fait, ils découvrent un jour qu'il y a quelqu'un d'enfermé dans une cave quelque part dans ce village. Et cette information va les mettre face à une décision à prendre. Est-ce qu'ils font face à cette injustice?
C'est un enfant en plus.
C'est un enfant, tout à fait. Ou est-ce qu'il
continue à vivre
l'air de rien dans l'insouciance? Et c'est un livre très important, je trouve, et formellement parfait sur justement qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a sous les yeux. Et c'est un livre très court, je pense qu'il fait moins de 100 pages en fait. Extraordinaire, je le conseille à tout le monde.
votre choix musical, Laurel Mackie, Dreams, des Cranberries.
Oui, ça me rappelle beaucoup mon adolescence. J'ai beaucoup écouté ça sur mon Discman. Je faisais des compiles en enregistrant les...
Pas zombie ?
Zombie, un petit peu, mais il y a quelque chose en termes de mélodie qui me plaît, qui me plaît un peu moins. En revanche, celle-ci, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup imaginé sur le chemin du collège. Ouais.
Alors, en parlant de ce qu'on imagine, justement, vous parlez de votre rapport au Liban, qui est aussi un rapport à vos origines dans votre livre. Ce rapport fut d'abord fantasmé, puis ensuite vous avez un peu appris l'arabe, vous êtes rendu au Liban d'abord seul, puis accompagné. Et justement, avez-vous été déçu par le réel, après l'avoir tant fantasmé ?
Pas du tout, parce qu'à un moment donné, mon imagination butait sur l'inconnu, sur l'impossible. Donc je l'ai fantasmé, mais pas tant que ça. Je pense que je le fantasmais plus noir, plus sombre. Alors ça n'enlève rien au fait que le Liban est dans une situation ultra critique. Mais je crois que quand je suis arrivée, je me suis dit, j'ai vu les gens dans les rues à Beyrouth sortir le soir, s'amuser, vivre. Et dans ma tête, en fait, on m'avait tellement dit que c'était un pays qui n'était pas fréquentable, qu'on pouvait y mourir. Ce qui est le cas, hein, je tiens à le préciser toujours. Et d'autant plus aujourd'hui, je crois que j'ai été heureusement surprise et j'ai rarement éprouvé un sentiment de joie aussi exact.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi Une Mouette de Tchekhov. Je ne dis pas La Mouette, on est habitué à entendre La Mouette, à la Comédie française, mise en scène par Elsa Grana et traduite par André Markovitch et Françoise Morvan.
C'est Une Mouette parce que c'est une adaptation, c'est-à-dire qu'Elsa Grana prend quelques libertés, elle écrit des choses qui n'existent pas dans le texte original. Moi, c'est ce que j'aime avec les classiques, c'est un peu des blocs d'argile et on peut leur donner les formes qu'on veut. Et là, quand j'y étais, il y avait des jeunes, des vieux, des couples, des gens tout seuls.
Et des mouettes ?
Et des mouettes, il y en avait une.
Pardonnez-moi, je sors du studio.
Tout à fait, qui est tombée, je vais pas spoiler, hein, mais qui est tombée du plafond. Et en fait, il y a eu une sorte de vague d'émotions. Et en fait, en ressortant, les gens avaient les yeux pleins de larmes. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au théâtre et qu'une telle émotion ne nous avait pas pris ensemble. Et surtout, il y a Marina Hans qui est exceptionnelle.
Mon amour, je suis tellement heureuse que nous nous soyons retrouvés. Pire sur la terre, c'était ton absence. Nous ne laisserons plus de malentendus s'installer entre nous. Je savais que tu ne pouvais pas m'avoir oublié. Quand une femme comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Maintenant, je ne pleure plus. Dans la vie, on ne change pas de père, de mère, d'enfant. On ne change pas non plus de femme, ni de mari. Je suis ta femme, définitivement. Nous resterons ensemble jusqu'à notre mort.
Laurel Mackie, vous avez publié aux éditions Segers Adèle Hugo, ses écrits, son histoire, préfacée par Isabelle Adjani, qui a joué Adèle Hugo, on l'entend, il y a tout juste 50 ans dans le film de Truffaut, Adèle H. Et ce qu'on découvre dans votre livre richement illustré et documenté, c'est que la fille de Victor Hugo tenait un journal familial de l'exil, exigé par Victor Hugo, et en parallèle, un journal intime crypté.
Crypté, c'est-à-dire que le journal officiel était lu et relu par ses frères et son père qui vérifiaient chaque soir s'il avait bien tout noté, les allées-venues des gens, les invitations, les repas, les horaires, les activités. Et puis parallèlement, effectivement, elle nourrit un journal vraiment intime, ou sûrement pour se protéger. Alors c'est une hypothèse que je fais, effectivement, elle invente une langue qui ressemble à du verlan en inversant les syllabes et les lettres dans les syllabes. Donc c'est une langue proprement illisible qu'il faut décrypter, qu'une universitaire américaine a fait bien avant moi. J'ai poursuivi son travail parce qu'il y avait beaucoup d'inédits que j'ai retrouvés Place des Vosges à la Maison Victor Hugo. Et ça montre en fait une chose très importante, c'est qu'Adèle Hugo était effectivement la fille de son père, mais c'est une grande autrice avec énormément d'imagination. Si on parle effectivement de ce sujet-là, en tout cas, elle s'était forcée à la fois à travers ce journal et peut-être à travers cet acte un peu de désobéissance, cette fuite qu'elle a effectuée en 1863, elle s'était forcée de vivre la vie qu'elle s'était imaginée. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire, en fait.
Elle a survécu à toute sa famille. Elle a été très amoureuse d'un Anglais, Robert Pinson, engagé dans l'armée, qui doit repartir. Elle s'enfuit en Angleterre pour le retrouver. Elle dit qu'elle est mariée. On la prend pour une folle, puisqu'en fait, il a fait sa vie avec une autre femme. Mais, coup de théâtre, un descendant de ce Pinson a prouvé qu'en fait, elle n'était pas si folle que ça.
Alors oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et d'ailleurs le film de Truffaut le montre, on l'a prise pour une érotomane, pour quelqu'un qui s'était imaginé un amour qui n'existait pas. Et il n'y a pas très longtemps, un document est ressorti, donc l'un des descendants d'Albert Pinson, donc ce lieutenant de l'armée anglaise dont elle était amoureuse, a montré à un chercheur américain, Bax Baldridge, qu'effectivement, ils avaient signé un contrat de mariage. Et donc, ça vient mettre à plat toutes les hypothèses d'illusions, de mensonges qui ont pu courir sur elle. Je pense véritablement qu'elle n'était pas folle, elle était obstinée. Alors ça, on peut dire qu'elle a eu beaucoup d'obstination. En revanche, il l'aimait, je pense. Il y avait forcément quelque chose entre eux.
Et alors, ce qu'on ignore aussi, c'est qu'Adèle Hugo était pianiste, composait de la musique dans l'indifférence familiale, et je voulais qu'on lui rende hommage en entendant une de ses compositions, puisqu'il a fallu attendre 2004 pour que Richard Dubunion, un musicien et compositeur suisse, découvre ses œuvres dans la fameuse malle à Hauteville House, là où on a découvert d'ailleurs tout ce que vous reproduisez dans votre ouvrage, Laura Elmaki. Et là, on entend Karine Deshaies lire un poème de Victor Hugo, Nuit de juin, sur le morceau orchestré par Richard Dubunion. Ça vous émeut ?
Oui, je suis très heureuse qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse enfin l'entendre, et qu'elle soit un petit peu détachée de son père aussi. Ça ne devait pas être facile d'être une fille d'eux.
Non.
Et surtout la fille du plus grand écrivain français. Quand on voit ses frères ont du mal, beaucoup de mal à s'accomplir. Quand je vois ce qu'elle a accompli, elle, en si peu de temps, parce qu'elle a été internée assez jeune, je trouve ça extraordinaire. Et je suis très heureuse qu'on puisse l'entendre ce soir, oui.
Il nous reste environ 30 secondes pour que, attention, ça va encore être une question difficile, pour que vous donniez aux auditeurs un mini exercice d'écriture, puisque vous donnez des ateliers d'écriture parfois à l'école Les Mots.
Alors peut-être prendre une phrase d'un roman au hasard, et puis de la noter et d'essayer d'écrire la suite. C'est un exercice assez simple, que tout le monde peut faire à son niveau, et qui permet souvent de débloquer quelque chose dans la main.
Vous faites des exercices à vous-même parfois ?
Ça m'arrive, ouais. Il y a plein de moments où j'arrive pas à écrire, et il faut aussi que je m'applique ce que je donne aux autres.
Merci beaucoup Laura Elmaki.
Merci, merci beaucoup.
Petit éloge de l'imagination est paru aux éditions Pérégrine. Adèle Hugo, ses écrits, son histoire, préfacée par Isabelle Adjani, est sortie aux éditions Segers. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget. À demain, 20h10. Thank you.